Loïc Tassé, bon lundi.
Bonjour Bernard.
Alors, beaucoup d'informations internationales encore. Parlons un petit peu de l'Espagne, parce que ça se corse là-bas.
Ça ressemble les élections anticipées en Espagne. Écoute, c'est très simple ce qui est arrivé. Bon, tu connais l'histoire, le problème de la Catalogne, Catalans qui veulent devenir indépendants. Alors, lui, le nouveau gouvernement, le gouvernement de Pedro Sanchez...
Qui est un socialiste.
Qui est un socialiste, mais il y a juste 25% des sièges. Donc, qui est au pouvoir depuis le mois de juin, a tendu la main aux Catalans, dit, écoutez, on veut vous donner davantage de pouvoir, etc.
Puis, comme il est minoritaire... Ça pourrait être une façon pour lui de s'assurer d'un appui de certains députés de la Catalogne.
Exactement. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Il y a eu une grande manifestation ce samedi en Espagne. 45 000 personnes sont descendues dans la rue à l'appel de la droite conservatrice et de l'extrême droite.
Qui ne veut faire aucune concession.
Aucune concession.
Qui sont anti-autonomie pour la Catalogne.
Complètement. Ils scandaient Espagne. Et ça va très mal pour lui parce que les sondages montrent que les socialistes vont perdre les prochaines élections si elles sont déclenchées. Ce serait justement une coalition des partis de droite qui gagnerait ces élections.
Anti-autonomie.
Anti-autonomiste. Donc, il tend la main, mais en même temps, toute la droite, tous les partis anti-autonomie sont contre. Sauf que ces députés catalans disent « Non, non, monsieur Sanchez, non seulement il faut que vous nous tendiez la main, mais il faut en plus que vous fassiez un référendum sur l'indépendance en Catalogne. »
Oh, là, c'est des... Franchement, il devrait peut-être comprendre que à court terme, un compromis pour plus de pouvoir en faveur de la Catalogne pourrait être une première étape.
Je pense que tu as raison. Mais le problème, c'est que mercredi, on vote le budget.
Le gouvernement espagnol, le parlement espagnol
va voter sur le budget du Parti socialiste. Et les Catalans, les députés catalans, indépendantistes, disent ben, « on votera peut-être pas pour le budget ». Alors, ça précipiterait l'Espagne dans des élections anticipées qui risquent d'être
remportées par un gouvernement qui va être encore plus dur envers le mouvement indépendantiste catalan. Ben là, c'est pas brillant, ça.
Écoute,
je regarde ça de l'extérieur.
C'est ce qui est en train de se passer. C'est pour ça que je te dis, ça va pas bien en Espagne.
Bon.
Tu as des gens donc qui sont campés dans leur position. Ça devient idéologique et c'est très peu rationnel.
Voilà. OK, parle-nous, parlant de pas très rationnel, il y a 40 ans, la révolution islamiste en Iran était peut-être rationnelle parce qu'ils voulaient foutre dehors le Shah d'Iran.
Mais presque tout le monde.
Qui avait institué un régime
monarchique, plus ou moins éclairé, modernisant un peu l'Iran. Ouais. Et les gens étaient derrière comme l'ayatollah Khomeini à l'époque, qui était en France. Grande barbe blanche. Il avait l'air d'un... Et ce type promettait la révolution. Tous les intellectuels, tous les artistes étaient derrière lui, sauf qu'il est arrivé en Iran il y a donc 40 ans et il a pris le pouvoir. Et une des premières choses qu'il a faites, c'est de brûler les bibliothèques, de mettre les intellectuels en prison, de pourchasser les artistes. Et on s'est rendu compte que le gars n'était pas du tout en faveur d'une révolution comme on l'entendait à l'époque, une révolution qui aurait ouvert davantage l'Iran à la modernité. Mais au contraire, il a précipité l'Iran dans un Moyen-Âge incroyable en instaurant un totalitarisme terrible.
Alors aujourd'hui, ceux qui appuyaient, il y a 40 ans, la révolution islamistes et les ayatollahs seraient sans doute opposés au dit régime.
Ah, ils le sont, ils le disent. Ouais. Il y en a qui parlent et qui disent c'est terrible ce que vous avez fait. Et de toute façon, ce pays ne va pas très très bien. Tu sais, c'est quand même 82 millions d'habitants. C'est une culture extrêmement riche. Mais
une histoire incroyable.
Une histoire incroyable, extraordinaire. Ouais. Mais il y a 12% de chômage, 10% d'inflation. Et c'est un pays qui a beaucoup, encore une fois, de problèmes économiques, beaucoup de problèmes à l'intérieur même du pays. Il y a des contestations du pouvoir qui sont très très fortes. Mais les dirigeants en ce moment surfent sur l'anti-américanisme, l'anti-israélisme, et ça leur permet de demeurer au pouvoir parce que plus les Américains tapent sur l'Iran, plus ces gens-là sont confortés dans leur position et peuvent mobiliser la population iranienne.
C'est dommage, mais en même temps, je veux dire, s'il y avait des vraies élections présentement en Iran, là, je pense que c'est les réformateurs qui gagneraient.
Sans aucun doute.
Les vrais réformateurs, libéraux.
Les religieux seraient bottés dehors.
Ah oui, absolument. OK. Restons un petit peu dans le même esprit. En Algérie,
Algérie,
je parle
d'une royauté.
Ben oui, d'une certaine façon. Bouteflika, qui se représente pour un cinquième mandat,
oui, c'est ça? Oui, il a 81 ans, mais il a fait un AVC en 2013. Et quand on le voit à la télé, il a l'air d'un mort vivant.
Il a l'air d'une momie.
Il n'est pas capable de parler, il articule à peine.
Mais tu sais bien que c'est les ceux autour qui bien souhaitent entendu, garder le pouvoir.
Et les militaires en particulier. Donc c'est une façade. Officiellement, donc, il a annoncé qu'il allait se présenter. Mais un chiffre intéressant, il y a 139 candidats à la présidence en Algérie. 13 chefs de partis politiques se présentent à la présidence et 126 candidats indépendants.
Et je te parie qu'il va gagner au premier tour malgré ça.
Ah, avec 99% des voix.
Franchement,
j'exagère un peu, mais
c'est... Non, mais c'est une blague quand même. Bouteflika, qu'est-ce qu'il fout là?
Mais tous les Algériens vont te le dire. Ils sont tous convaincus que le type, il a plus toute sa tête. On ne sait même pas s'il est vraiment vivant.
Moi, j'en parle souvent avec des Québécois d'origine algérienne. Oui. J'en discute avec eux, notamment le matin quand je prends le taxi. Et puis, je vais te dire...
C'est unanime, hein?
Bouteflika, je veux dire, ils prennent pas ça très, très au sérieux, non. Là. Ils voient bien que ce gars-là gouverne plus. Mais dans avec les faits, raison. C'est sa garde rapprochée qui veut garder le pouvoir à travers lui.
C'est ça.
Hein?
Simplement.
C'est ça, hein?
C'est tout simplement ça qui
okay.
se produit.
Parle-nous un petit peu de... Alors là, on est vraiment dans la monarchie. Parce que en Thaïlande, la sœur... Attends, c'est quoi? C'est la sœur...
Aînée.
La sœur aînée.
Du roi.
Du roi qui veut se présenter... À la présidence, c'est ça?
Elle veut être premier ministre.
Elle veut être première ministre.
Attends, elle se présente pas dans n'importe quelle coalition. Elle se présente dans la coalition... Ah, écoute, il faut que je recommence parce que les gens comprendront pas. Il y a quelques années, au pouvoir est entré un certain Thaksin. Et ce gars-là était vraiment... plus ou moins contre la monarchie, c'était les nouveaux pouvoirs montants, les nouvelles élites montantes en Thaïlande. C'est lui qui a pris le pouvoir, il était corrompu, il a été chassé du pouvoir, sa sœur a pris le pouvoir et il y a eu un coup d'État, il y a 2-3 ans, contre sa sœur. Et ce sont les militaires qui se sont installés au pouvoir.
Les militaires qui sont habituellement très monarchistes.
Très monarchistes, très proches de la monarchie.
Oui.
Or, la sœur a décidé de se présenter au poste de premier ministre dans la coalition de Thaksin.
Donc, dans la coalition anti-monarchie.
Entre guillemets, anti-monarchie.
On peut dire la sœur du roi.
La sœur du roi.
Se présente contre le roi.
D'une certaine manière. Alors, évidemment,
c'est
théâtre.
Ben, c'est maison.
Le roi sort, qui n'est pas aimé. C'est le nouveau roi, parce que le vieux roi est mort il y a 2 ans.
Oui, lui était très aimé, le vieux roi.
Extrêmement
très aimé.
Mais alors, le nouveau
adulé,
roi...
Adulé, c'était comme un roi... Un dieu.
Un dieu.
Oui.
Tu ne peux pas parler contre lui, d'ailleurs. Tu ne peux pas parler contre la famille royale.
Tu es
en prison immédiatement.
Oui, voilà.
Mais ce que je vais te dire, si j'étais en Thaïlande, me vaudrait immédiatement la prison.
Mais je t'assure, je te protège.
Ah non, mais
si jamais les agents secrets de la Thaïlande rentrent ici, je me jette sur eux.
Je l'ai déjà dit. Il est détesté de la population parce qu'il est vu comme étant quel très 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 corrompu et il y a beaucoup de gens en Thaïlande qui disent que c'est le chef de la mafia en Thaïlande littéralement. Bref, ce nouveau roi a dit il n'est pas question que ma sœur se présente. Je trouve que c'est inconstitutionnel qu'elle fasse ça. On se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Alors, le parti qui voulait la présenter a dit, écoutez, on va reculer, on va pas la présenter.
Ben non, c'est sûr.
Ils ont peur.
Ben oui.
Et elle a tweeté ce matin en disant, non, je suis redevenue une citoyenne ordinaire. Je veux exercer mes droits constitutionnels.
Je maintiens ma candidature.
Oh. Elle a pas dit, je maintiens ma candidature. Elle dit, je veux exercer mes droits constitutionnels. Donc,
ça
c'est quand même une nuance.
Ça pourrait vouloir dire
qu'elle maintient sa candidature.
Ah, ben c'est intéressant.
Oui,
c'est
ça
intéressant
à suivre. Donc, je te dirais si. Oui. C'est le conseil électoral, finalement, qui doit statuer sur la validité de la candidature de la sœur du roi.
Ouais,
à mon avis, ils vont dire non.
À mon avis aussi. Malheureusement. Loïc Tassé, merci.
C'est un plaisir.
Alors, on s'arrête et puis au retour, on va aller à Genève. Parce que à Genève, les électeurs viennent de voter pour interdire les signes religieux chez tous les fonctionnaires. Et vous allez voir, il y a des arguments que vous allez entendre. Vous allez dire, ah ben tiens, regardons, c'est comme chez nous.